EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Pourquoi veux-tu toujours avoir raison ? Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour et ensuite, nous aurons notre quiz que vous aimez tellement. Voilà, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Wow, vous êtes en grand nombre aujourd'hui. Oui. Ça réveille.
Ça sent le quiz.
Ça sent le quiz.
Ça
exactement.
Sent la victoire.
Oh, yes. Nadine est sûre d'elle aujourd'hui. Bah, faites attention.
Rouges,
hein.
Les rouges sont souvent sur deux.
Mais pour rien.
Les trois en fait.
En fait et après
ils pensent toujours avoir raison.
Ils pensent toujours avoir raison. Mais pourquoi voulez-vous toujours avoir raison?
Nous, on est jusque-là, c'était très pacifique l'ambiance. Hein. Avant toutes ces accusations.
T'as vu, hein?
Bah, avant que Nadine parle de la victoire, tu veux dire?
Non, Nadine était en train de dire qu'on va gagner, qu'on va gagner. C'est différent.
Ah oui, c'est différent.
Une déclaration.
On se retrouve
dans 20 minutes.
Dans 20 minutes pour voir le résultat.
Ding, ding, ding.
C'est
ça. On verra qui a raison.
On verra. Le match commencera dans 20 minutes. Avant ça, nous allons rester courtois, dans l'amour, dans la bonne humeur. Et nous allons parler, Jonathan, de pourquoi certaines personnes veulent toujours avoir raison dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée qui est très poétique, la raison d'avoir tort.
Tout à
c'est
fait.
Philosophique même, pratiquement.
Oui, oui, oui. Et si vous me le permettez, une fois n'est pas coutume, je vais citer un humoriste français, Raymond Devos, à tort ou à raison, 1973. Donc voilà. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort, c'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non ?
Absolument.
Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Et là, j'insiste, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non, remarquez. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort, il n'y a plus de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort.
Wow ! Ça fume là dans ma tête.
Et certains vont poser la question, quel est le rapport avec la Bible ? Vous avez raison. Mais il n'y a rien de pire de croire que l'on a raison lorsqu'on a tort. D'ailleurs, à un moment donné, nous pouvions être persuadés que nous étions sur la bonne voie alors que nous étions perdus. Mm-hmm. On pouvait être persuadés de croire qu'on était là, on était là comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et pourtant on était perdus. Mm-hmm. Quelle situation absurde quand celui qui a tort s'obstine à croire qu'il a raison. Et l'expérience de la vie nous amène à la prudence et à l'humilité. L'apôtre Paul nous avait pourtant mis en garde en disant que celui qui croit être debout, pas celui qui est debout, hein, mm-hmm. celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Et il faut être sensible à l'esprit. Il ne faut pas croire n'importe quoi, n'importe qui, nous inclus. Mm-hmm. Évidemment, celui qui sonde les cœurs et qui, par excellence, est celui qui a toujours raison, sa parole ne ment pas, c'est Dieu. Mm-hmm. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, 23, 19. Le meilleur moyen d'avoir toujours raison, c'est de laisser la raison de Dieu prendre le contrôle. Pour cela, il faut avoir beaucoup d'humilité, accompagné souvent de repentance pour reconnaître ses torts. En étant sensible à l'Esprit de Dieu, on lui permet de nous reprendre, de nous corriger au besoin. Un peu comme quand on dit dans cette expression populaire « corrige-moi si j'ai tort mm-hmm. » et après on dit quelque chose. Eh bien, il faudrait avoir ce même état d'esprit lorsque l'on se présente devant Dieu ou lorsque l'on parle, de dire « Seigneur, « corrige-moi si j'ai tort mmh. ». Avoir cette sensibilité à l'esprit pour être prêt à être corrigé. Et que celui qui n'a jamais tort, eh bien, il a tort. Mmh. Parce qu'on ne peut pas jamais avoir tort. Il se trompe lui-même. C'est ce que Jacques nous dit, et je lis dans la Bible en français courant, « Nous commettons tous des erreurs, et de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. » Bref, on a un jour ou l'autre tort, et ça nous arrive d'avoir tort. Et il faut être capable de se repentir, de reconnaître ses torts lorsque l'on a tort. Et on va dire, bon, c'est facile de reconnaître ses torts lorsqu'on a tort, mais quand j'ai raison. Eh bien, c'est faire preuve d'humilité et de sagesse aussi lorsque l'on a raison ou que l'on croit avoir raison, eh bien, de demander à Dieu si vraiment on a raison. Mm-hmm. Et peut-être que là, vous serez surpris que l'Esprit de Dieu vous dise, tu vois, tu t'obstines, tu insistes, tu penses avoir raison, mais tu as tort. Et qu'on puisse avoir l'humilité eh bien, de reconnaître ses torts, même quand on croit avoir raison. Et en tout cas, une chose est sûre, on a toujours tort quand on se bat avec rage pour prouver qu'on avait raison. Si vous me le permettez, je vais conclure en refaisant la Bible et en réécrivant le texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et même quand j'ai vraiment raison, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Amen, Jonathan, quelle pensée! Wow. Là, franchement, tu as mis la barre très très haute.
Les rouges.
Je suis ravie de t'avoir confié cette pensée.
Non, ça, c'est individuel. Hein,
Jonathan.
On n'est pas encore, on n'a pas commencé là.
On peut se concerter. On n'est pas encore dans le quiz.
Là, t'as tort à faire.
Là, on a tort.
Allez, là, c'est lui, 5 points pour la pensée de Jonathan. Non, c'est génial. Et ce que tu as dit, y en a peut-être qui n'ont pas compris le début. Hein, si vous n'avez pas compris, c'est normal. C'était de l'humour.
Le texte est
sur
le site. Hein.
Ah oui, donc c'est ça. Vous pouvez aller le relire effectivement sur le site enseignement.com pour décortiquer tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, on s'obstine à dire qu'on a raison et parfois, on a tort. Et même parfois, si on a raison, par humilité, on peut des fois simplement s'humilier et puis ne pas écraser les autres.
Et on peut être sincère. Hein. Je me souviens, une fois, j'étais dans le train. Je pensais que le train allait dans telle ville. J'étais persuadé, mais j'avais tort.
Et je suis arrivé
dans la mauvaise ville. Mais donc, du coup, on peut être persuadé d'avoir raison, mais on a tort. Ce n'est pas parce qu'on est persuadé ou convaincu qu'on a forcément raison.
Il y a des gens qui aiment bien dire « Je suis sûr à 100%, je serai certain. » Puis deux minutes plus tard, « Bon, je suis pas si sûr que ça, en fait, quand même. » Mais les gens aiment bien utiliser des grands mots. Mais moi, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que on peut jamais s'obstiner avec Dieu, en tout cas. Avec Dieu, quand on croit qu'on a raison, et même si ça nous paraît totalement justifié, totalement noble, et etc., etc., avec Dieu, finalement, si on est en confrontation avec lui, on finit toujours par avoir tort. Et il y a des gens qui aiment bien être en confrontation avec tout le monde, mais particulièrement avec Dieu. Ils vont lire un texte et puis ils vont aller chercher une façon de le tourner différemment, pour le comprendre différemment, parce que ça, c'est un peu inconfortable. Ou Dieu va leur demander de faire quelque chose et puis, non, on va négocier, et puis on oublie qu'en fait, Dieu a toujours raison. Et je vous invite à regarder avec moi notre verset du jour qui est dans Jacques 4 au verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Le problème est là, c'est ce désir égoïste.
Et sur l'image, on voit presque l'éclair qui entre les deux
doigts. Entre les bleus et rouges.
C'est ça. C'est mauve, le violet.
C'est vraiment ça, en fait, ce qui est souvent le problème, c'est la motivation qu'il y a derrière. Lorsqu'il y en a des argumentations, des débats comme ça entre frères et sœurs ou peu importe, ou même à la maison, c'est juste la motivation qu'il y a derrière. Si on arrive à vraiment focaliser sur quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir même avoir raison. Dès qu'on arrive à localiser cette motivation, souvent on s'aperçoit que c'est vraiment des motifs qui sont pas dans l'amour, qui sont pas purs, qui sont pas sains. Donc juste se faire ça. Si on peut le réafficher, s'il vous plaît, en régie. J'ai pas le droit de faire ça dans Bonjour chez vous, mais je rêve de le faire depuis hyper longtemps.
Gwen veut encore le verset.
C'est ça, j'ai raison de le vouloir. J'avais raison. Non, mais c'est ça, là, ça parle de désir égoïste et c'est vraiment pour satisfaire pour satisfaire sa petite personne.
Bah parce qu'au fond, ça... Oui, pardon, vas-y.
Ça va révéler, en fait, lorsque quelqu'un veut toujours avoir raison, ça va révéler qu'il y a de l'orgueil.
Mmh. Tout à fait, oui.
Puis c'est ça qui est dangereux, parce que l'orgueil, si elle se manifeste là, ça va se manifester dans d'autres endroits de ta vie aussi.
C'est de l'orgueil, mais parfois, c'est aussi un manque d'estime de soi. Et il y a les deux.
Aussi.
Parce que parfois, on a besoin, comme ça, de toujours prouver les choses, mais c'est parce qu'en fait, on manque de confiance en soi. Il y a
aussi.
Les deux.
Ouais, c'est ça, mais encore là, c'est de l'orgueil pareil aussi. Parce que tu
c'est
veux.
Une forme d'orgueil.
Oui, exactement. C'est super dangereux, parce que ça va précéder ta chute. Mais vraiment, il faut accepter, il faut juste dire oui à un moment donné et dire, des fois, quand quelqu'un me dit quelque chose, je croyais que j'avais raison, mais à fin de compte, tu vois que tu ne l'as pas, au lieu de t'astiner tout le temps, tu dis, et là, ça, c'est un apprentissage, en fait. Tu dis, tu avais raison, j'avais pas raison, et puis je m'excuse. Mm-hmm. Et puis, tout simplement, et ça, il faut apprendre à le faire, parce que lorsqu'on est orgueilleux et qu'on veut toujours avoir raison, c'est ultra difficile de piler sur son orgueil.
Piler sur son orgueil. Ouais.
Il y a une issue de secours quand on attend en dire oui, t'avais raison, mais bon.
Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, ça, c'est juste... une attitude. Ouais. C'est terrible, c'est terrible.
C'est une solution que je vous donne.
S'il vous plaît, Nadine veut parler.
Oh, Nadine, nous te donnons la parole.
Non, j'allais dire, je crois que l'amour, ça doit être le fondement parce que.
Ok, c'est bon, c'est fini.
Ben, tu sais, c'est parce que... Vas-y, Nadine.
L'amour, ça doit être le fondement.
Parce qu'il y a des personnes dans leur famille qui ont des problèmes dans leur famille, dans leur couple, parce qu'ils ont tellement les idées arrêtées, ils sont ancrés dans leur position. Ouais. Et quand tu te rends compte qu'après, au final, tu as eu raison, mais qu'est-ce que tu as laissé derrière? Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que vous êtes déchirés, vous avez discuté sans finir. Et même aussi en tant que chrétien, des fois, tu vois sur les réseaux sociaux, des chrétiens qui débattent en n'en plus finir, juste
pas.
Pour pouvoir avoir raison. Et c'est vraiment, comme le pasteur Jonathan l'a dit dans sa pensée, comme vous l'avez dit dans vos interventions, au final, c'est quoi? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est vraiment parce que je veux vraiment partager ce verset où je tiens absolument à avoir raison pour un égoïsme personnel, en fait?
C'est ça.
Il y a des personnes qui ont commencé par avoir raison, mais qui se sont retrouvées à avoir tort par la suite, tout
ça
simplement parce que
l'obstination.
Oui, parce qu'ils sont obstinés, parce qu'ils rentrent dans la mauvaise motivation. Pourtant, au départ, la chose que tu avais dit pouvait vraiment être.
Finalement, ils ont tort de
et
vouloir avoir
t'as
raison.
Et finalement, tort de vouloir.
Voilà.
C'est ça.
Pas compris.
On a perdu Jérémy.
Et celui qui ne reconnaît jamais ses torts, c'est est pas crédible. À un moment donné, un leader qui a toujours raison, c'est plus un leader. Parce qu'un leader doit être capable de reconnaître quand il a tort. Et on va faire confiance à quelqu'un qui va reconnaître ses torts. Si quelqu'un vous dit, bon, je sais où on va, et puis il vous perd, et puis finalement, vous arrivez nulle part, la prochaine fois, il dit, non, je connais le chemin, on va lui dire la dernière fois. Mais si la personne dit, je me suis trompé, non, c'est pas là qu'il fallait aller. La prochaine fois, il va dire, non, ça, je sais où on va. Il va dire, bon, la dernière fois, il a reconnu ses torts. Si là, maintenant, il nous dit qu'il sait où il va, on peut lui faire confiance. On va faire confiance à quelqu'un qui reconnaît ses torts.
Mais
on ne fera pas confiance à quelqu'un qui a toujours raison, parce qu'on sait que ce n'est pas possible de toujours avoir raison.
Il faut avoir un cœur enseignable. Et dans l'histoire de Caïn et Abel, on voit que le Seigneur va parler à Caïn pour qu'il change, en fait, d'attitude. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Malheureusement, Caïn n'a pas choisi l'humilité, le choix de l'humilité, mais il a persévéré dans son mauvais cœur. Il faut vraiment qu'on puisse garder notre cœur et marcher dans l'humilité, comme il a été dit.
Exactement. Maintenant, plus personne.
Il y a des gens qui pensent.
Non, vas-y, Jérémy.
On parlait des débats. Ce week-end, il y a eu un truc un peu drôle. Il y a une femme qui est venue me voir à la fin d'une réunion. Elle m'a dit, mais vous, que pensez-vous des femmes qui prêchent? Mais ça avait je lui ai dit, pourquoi voulez-vous que je vous réponde? Parce que vous avez déjà votre idée reçue, en fait. Les gens, quand ils savent déjà qu'ils ont raison, ça sert à quoi de discuter?
Exactement.
Et des fois, il y a une double négation qui est assez symptomatique. Quelqu'un, il va pas dire j'ai tort, il va dire j'ai pas raison. On va dire t'as raison, on va dire tu n'as pas tort.
Oui.
À un moment donné, on veut comme atténuer soit le fait d'avoir tort ou le fait que l'autre a raison, plutôt que de lui dire non, mais tu as vraiment raison, on va dire bon, t'as pas tort. Plutôt que de dire t'as raison, il faut reconnaître quand quelqu'un a raison, mais quand on a tort, il faut pas dire bon, j'avais pas tout à fait raison. Non, t'avais franchement tort.
Appelons un chat.
Ben oui.
C'est un verset qui dit oh, pardon, excuse-moi.
Vas-y, Gwen, vas-y.
Non, tu as raison de.
Ok, on y va au buzzer.
Merci.
Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements.
Comment?
C'est ça?
Non, c'est pas celui-là.
C'est pas ça du tout, non. En fait.
Tu n'as pas raison.
T'as pas eu le point.
Non, mais c'est heureux, les partisans de paix. Et je pense que dans les conversations, il faut vraiment avoir ça à cœur, toujours être une personne qui recherche la paix.
Oui.
Et j'espère que sur ce coup-là, j'ai raison.
Je voulais juste dire que c'est nocif dans les couples, et puis aussi vis-à-vis des enfants aussi. Parce que parfois, on a tort, puis c'est un enfant qui est devant toi. Puis là, tu dois dire que Gwen, ça le fait rire vraiment beaucoup, en fait.
Ça me fait rire parce que... Je raconte une anecdote. Un jour, je posais du parquet et on était avec mon ami, puis ça faisait 45 minutes. Mon fils, il était en train d'essayer de nous parler, puis il était petit. Puis il disait, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Puis nous, on était dans des calculs savants, on comprenait rien. Et puis, 45 minutes plus tard, on est là, on trouve la solution. Puis là, mon ami, il me dit comme ça, il avait raison, ton fils, de parquet. Puis je lui dis, on va pas lui dire.
Et là, voilà l'orgueil de Gwen.
C'est ça, l'orgueil de père. Tu pouvais pas perdre cette...
C'était donc un con, c'est
clair. Tu voulais pas perdre la passe.
Je lui ai dit, mais ça s'est produit plusieurs fois avec mon fils.
Parce que ça va frustrer les enfants aussi, même si tu veux pas reconnaître que parfois tu t'es trompé, mais c'est vrai, faut faire attention.
Mais quand il a raison, je le punis.
Nous voilà rassurés.
On passe au quiz, je pense.
C'est clair, faut arrêter.
On est prêts, on est prêts.
Je sens qu'on est bien échauffés.
Bon, je pense qu'on a tous tort sur ce plateau. Voilà. On va continuer avec le quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Vous l'aurez remarqué, les deux équipes sont très très en forme et ont hâte d'avoir raison.
Oui,
ouais. En espérant qu'on n'ait pas tort.
En espérant que vous n'ayez pas tort, moi je sais en tout cas que j'aurai raison dans cette émission. C'est ce qui me réconforte. Aujourd'hui, nous allons jouer pour une téléspectatrice, je vous le rappelle. Nous sélectionnons parmi nos donateurs le ou la gagnante du quiz. Aujourd'hui, nous jouons pour mademoiselle Jenny Teffit de France. Félicitations, Jenny. Tu as d'ores et déjà gagné le livre de Gary Thomas, « Votre mari a besoin de vous », qui est notre livre de la semaine. Je te laisse le voir.
Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com.
Voilà, c'était notre livre. Donc apparemment, mademoiselle Jenny. Donc apparemment, Jenny n'est pas mariée. Elle va pouvoir se former parfaitement à être une excellente épouse. Mmh. Et Jenny, peut-être que tu vas gagner également le gros cadeau que nous verrons à la fin du quiz si l'une des deux équipes remporte la finale. Donc nous allons commencer tout de suite avec le duel. Et là, tous les téléspectateurs ont les yeux rivés sur l'équipe bleue. Équipe bleue, est-ce que vous êtes prêts?
Nous sommes les bleus! Les bleus! Les bleus et les bleus!
Les bleus,
les bleus quoi?
Les bleus.
Les BLES.
Les BLES.
Vous avez filmé en origine, hein?
Il a un... Non, mais c'est la diction. Mais il a raison. Il a raison.
Yeah, blues.
Wow. Frank l'a dit en anglais, Jérémy en français.
Les
t'as oublié, il y a un Z à la fin.
Le blues.
Et vous avez répété longtemps pour cette chorégraphie.
Quand même.
Mais nous, on se prépare pour le quiz.
Ah ouais, c'est sûr que vous vous préparez bien. Extraordinaire. Ok, donc
si la cote d'écoute est aussi haute, c'est pas à cause de nos chorégraphies.
Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, la chorégraphie d'Aurélie, en tout cas la vôtre, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Question chorégraphie, il faudra repasser. Question numéro 1.
Une.
Il veut toujours avoir raison.
C'est clair, il veut toujours avoir raison. Selon Paul, quel don est le plus profitable?
La prophétie.
Oh, bravo! Selon Paul, quel don est plus profitable que les autres, aux autres que le parler en langue? Le don de prophétie. Un point pour l'équipe bleue. Question 2. Combien de personnes Jésus a-t-il nourri avec...
5 000.
Oui! Il les a nourris avec quoi?
Non, 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 non. 5000 hommes. Pour compter les femmes et les enfants.
Oui, hein. Bon, oui. C'est... Mais la Bible pas... a dit 5000.
Mais elle a pas fait.
Avec quoi?
Ils sont pas mentionnés.
Mais avec 5 pains et 2 poissons.
Bonne réponse. Jésus a nourri 5000 hommes. Donc, il y avait également des femmes et des enfants, absolument, Jonathan.
Donc, avec 5 pains. Et puis après, écoutez la question.
Et 2 poissons. Exactement. Il faut y aller au bol. 2 points pour l'équipe bleue. Question 3. J'aime bien prendre mon temps. Les tables de la loi, donc les 10 commandements, ont-elles été écrites sur une ou deux faces?
Sur une face?
Non! Oh
sur deux faces?
Oui!
Les premières ou les deuxièmes?
Ah! Les tables de la loi. Étonnamment, oui, dans Exode 32:15, vous pouvez aller vérifier à la maison.
Parce que j'avais vu le film, mais c'était pas comme ça.
Non! J'ai été surprise de cette question et je suis allée vérifier. C'est écrit des deux côtés. C'était une imprimante recto verso.
C'est ça. C'était voilà. Un souci.
Fallait économiser la pierre.
Ouais. C'était de l'écologie. Bon, équipe bleue, bonne réponse. C'était un point facile.
Ouais,
hein.
Vraiment.
Question 4. C'est un qui suis-je? Centenier romain, craignant Dieu, je suis...
Jairus?
Non.
Corneille.
Bonne réponse! Je suis le premier païen converti au christianisme à travers le ministère de Pierre. Corneille,
il faut pas casser le...
on peut avoir un autre buzzer, il est cassé celui-là.
On peut casser. Non, mais franchement. On peut casser
c'est
les buzzers.
Vas-y, Nadine. Vas-y, Nadine.
Non, mais c'est parce que ça marchait pas depuis tout à l'heure.
Donne tout ce que t'as. Si, ça marchait.
Ils ont trafiqué.
En fait, on peut, si tu veux, comme on l'a fait plusieurs fois au début du quiz, allumer tous les buzzers, faire un test de buzzer, mais tu auras tort, en fait.
Je pense qu'il est truqué, moi.
Je cherche pas, tête.
Mais elle a eu le point, elle a eu le point.
Bravo, Nadine. Question 5. Au cours de quelle bataille? Pardon, mais cette question est géniale. Au cours de la bataille entre Galaad et Éphraïm, comment les hommes de Galaad différenciaient-ils?
Un Chibolette et Cibolette.
Oui.
Bonne réponse. Oh, comment les hommes de Galaad différenciaient-ils les Galaadites des Éphraïmites, c'est ça? En leur faisant prononcer le mot chibolette. Alors, Jonathan, si tu peux nous donner des détails. Apparemment,
en fait,
tu connais bien cette histoire.
En hébreu, la lettre, je sais pas, s'il y a un petit point en haut à droite, c'est un se. S'il y a un petit point en haut à gauche, c'est un che. Okay. Donc, c'est le se et le che. Il ne faut pas osoter
donc,
ou avoir un che sous la langue.
Avant de tuer quelqu'un, il lui disait,
prononce tel mot. Et puis, il disait,
non, on lui montrait la plante. On lui disait, qu'est-ce que c'est ça? Il disait, c'est de la chiboulette. Et puis l'autre disait, c'est pas de la chiboulette, c'est de la ciboulette. Et là, c'était comme ça. Dans le film, en tout cas, hein, avec les tables recto verso.
J'aimerais faire une spéciale dédicace à Yannick pour cette question. Et je lui avais prédit que Gwen nous ferait une blague sur la ciboulette.
Wow.
Voilà, c'est fait.
T'avais raison.
Si vous voulez trouver cette histoire, elle est dans Juges 12 au verset 5 et 6. Mais vous pouvez lire Juges 12 au complet. Bon.
Spécial, hein.
2 points partout, non? C'est combien? 3-2.
Parce que...
Mais c'est fini! Mais c'est fini! Oh, oui. Voyez, on est avec 5, c'est ça. Équipe bleue, félicitations. Vous
merci.
Avez gagné la première manche. Équipe rouge, vous vous êtes bien défendu quand même. Hein.
Bah, moi, j'avais tout faux depuis le départ. À part la ciboulette, l'histoire de la ciboulette.
Au moins, tu reconnais que t'avais
tort. Reconnais tes
torts. J'avais tort.
C'était mais parfait.
Moi, j'étais déstabilisé en voyant le mot duel. Je me suis dit... Ce sont mes frères.
Oui. Oh, duel. Vous disiez pas ça au début de l'émission.
On peut avoir
merci, Étienne.
Musique, s'il vous plaît.
Musique, s'il vous plaît.
OK. On enchaîne donc tout de suite avec la phase de concertation. Dans cette phase de concertation, nous allons afficher les deux thèmes à l'écran. Nous avons le thème 1, qui est « Les miracles de Jésus ». Et le thème 2 qui est un « Qui sont-ils ?»
Ah, le jardin d'Éden a disparu. Ouais.
Le jardin d'Éden a disparu. Ouais. Vous l'avez englouti, enfin. Donc, le jardin d'Éden est disparu. Donc, les miracles de Jésus ou un « Qui suis-je ?» ou « Qui sont-ils ?»
Je suis celui qui suis.
Alors, équipe bleue. Jérémy était en bout de table. Tu peux prendre la décision pour ton équipe.
On va prendre les miracles de Jésus.
Les miracles de Jésus, c'est parfait. Donc, nous allons commencer. Je vous réexplique la phase de concertation. Vous avez 15 secondes de concertation pour vous concerter en équipe avant de donner la réponse. Nous allons commencer avec l'équipe bleue et ensuite, ce sera au tour de l'équipe rouge et ainsi de suite. Question 1. Qui crut qu'en ne disant qu'un mot, Jésus avait le pouvoir de guérir ? Concertation. Qui crut qu'en ne disant qu'un mot, Jésus avait le pouvoir de guérir ? Tu vas faire ça à chaque fois, Frank, parce que je pense que je vais les confisquer.
C'est l'intimidation là qu'on fait.
Très énervant. Jérémy ?
C'est le centenier.
Bonne réponse, le centenier romain. Je vais pas vous lire tout le passage, mais en gros, il va dire.
Mais dis seulement un mot.
Voilà.
Et mon serviteur sera guéri.
C'est parfait.
Il parlait exactement comme ça, les centeniers romains à l'époque. On a retrouvé un enregistrement à l'époque. On va vous le passer en régie, s'il vous plaît, enregistrement du centenier.
On l'a l'enregistrement sur la roche.
C'est recto verso, là aussi.
Oui. Auto-reverse, on disait à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Exactement, le centenier romain a cru que Jésus, en une seule parole, avait le pouvoir de guérir son serviteur malade. C'est très puissant parce qu'il n'était absolument pas un centenier, il était romain.
Et, oui. Et même Jésus va dire, même en Israël, il n'y a pas une aussi grande foi.
Exactement, donc je pense que là, il nous a tous cloués, le centenier romain. Bonne réponse. Équipe rouge.
C'est nous, ça.
Oui, c'est vous. Avant quel miracle Jésus se fit-il accueillir premièrement par un reproche ? Avant quel miracle Jésus se fit-il accueillir premièrement par un reproche ? Quelqu'un va commencer à faire un reproche à Jésus juste avant qu'il accomplisse un miracle. À la maison, vous pouvez réfléchir. Frank, je vais te le confisquer si tu continues de l'agiter.
C'est pour nous déconcentrer.
Oui, Jonathan ?
Nous proposons la résurrection de Lazare.
Bonne réponse, exactement. Quel était ce reproche et qui l'a fait ?
Dans Jean chapitre 11. Hein. Donc, ce sont les deux sœurs, parce que l'une et l'autre vont reprocher à Jésus de ne pas avoir été là assez vite.
Exactement. Donc, Jésus...
Si tu avais été là plus tôt, mon frère ne serait pas mort.
Je précise que c'est Nadine qui...
Oui, nous avons la réponse.
Mais c'est Nadine qui avait cette réponse.
Nadine est en feu pour ce quiz.
Heureuse.
Rien n'est perdu.
Donc, c'est une bonne réponse. Un point partout. Question 3, équipe bleue. Qui s'est fait rabrouer par la foule alors qu'il appelait Jésus pour être guéri ? Concertation. Qui s'est fait rabrouer par la foule alors qu'il appelait Jésus pour être guéri ?
C'est ça.
Apparemment, les deux équipes l'ont... Connaissez bien vos grands classiques des évangiles.
L'aveugle Bartimée.
L'aveugle Bartimée, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pourquoi la foule l'a rabroué ?
Parce que c'était un aveugle.
Il est fort et puis...
Il voulait pas qu'il dérange le maître. Mais il a laissé de côté son manteau. Il a couru vers Jésus.
Et qu'a-t-il dit ? Vas-y, fais-le.
Oh, hallelujah.
Fils de David.
Pitié de moi. C'est venu.
Il parlait comme un centenier un peu. Hein.
Non, il parlait tout comme ça à l'époque.
Ah oui,
c'est la voix d'un prêcheur.
Le centenier romain sera mon prochain invité dans Hosanna. La semaine prochaine, suivez.
C'est génial, ça va être formidable. Marc 10, vous pouvez lire cette histoire au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle.
Et on pouvait le faire taire parce qu'il dérangeait et qu'il faisait du bruit, ou alors parce qu'il disait justement ce que personne ne voulait dire, fils de David, c'est-à-dire reconnaître en Jésus le Messie davidique.
Ah oui, j'y avais jamais pensé. Exactement, c'est vrai.
Ça dérangeait théologiquement.
Et effectivement. Amen. En tout cas, Bartimée est une source d'inspiration. Question 4, équipe rouge. Lors de quel miracle Jésus prouve-t-il aux pharisiens qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés ? Oh, c'est une formalité pour Jonathan, apparemment. Ce n'est peut-être pas une formalité pour les gens à la maison. Lors de quel miracle Jésus prouve-t-il aux pharisiens qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés ? Jonathan.
Donc, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, Lève-toi et marche donc à ce paralytique qui est descendu du plafond.
Bonne réponse, bravo, tu connais bien tes classiques. Ah, oui. Très bonne réponse. C'était un moment particulier dans le ministère de Jésus quand même, parce que il prouvait aux pharisiens qui étaient là en train de râler comme toujours, qu'il était finalement le Fils de Dieu, qu'il avait cette autorité sur la terre de pardonner les péchés.
Et ça s'est déroulé dans la maison de Jésus.
Ah d'accord.
Mais c'est vrai.
À la maison, à la maison.
C'est vrai.
Et peut-être pour défaire. Je ne sais pas si je peux défaire l'image du film aussi. Là. On dit souvent qu'ils ont cassé le toit, qu'ils ont fait un trou. Et tout. Mais en fait, si on va chercher dans le verbe grec ici, ils ont défait, c'était un toit romain avec des tuiles. Mm-hmm. Ils ont enlevé les tuiles pour faire passer. Donc en fait, le propriétaire peut dormir tranquille, le toit n'est pas abîmé.
Oh, si le propriétaire était Jésus, je pense que ça ne l'a pas trop dérangé. On trouve cette histoire dans Marc 2, vous pouvez aller la lire à la maison. Équipe bleue, question 5, lors de quel miracle Jésus a-t-il outrepassé les lois de la physique, montrant ainsi à ses disciples qu'il était le Fils de Dieu?
C'est changé en fin.
Lors de quel miracle Jésus a-t-il outrepassé les lois de la physique, montrant ainsi à ses disciples qu'il était le Fils de Dieu? L'équipe bleue trouve ça très drôle.
Alors, selon Frank...
Non, tu m'as mal compris.
D'accord.
Dis la réponse.
Vous allez perdre.
Lorsqu'il a marché solo.
Lorsqu'il a marché solo, bonne réponse. J'entendais Jonathan dire quand il a changé l'eau en vin.
En fait, il a dépassé les lois de la physique assez souvent. Hein.
Oui, effectivement. Mais quand
la
multiplication
des pains aussi.
C'est vrai.
Moi, j'avais dit l'anon parce qu'un anon, c'est tout petit. Je ne peux pas t'asseoir dessus.
Je pense que c'est ça que Frank avait dit.
C'est ça qu'il a dit. Non, c'est pas ça.
Pas du tout. Donc, lorsque Jésus a marché sur l'eau, tout à coup, ce qui était liquide est devenu solide sous ses pieds. Et ensuite, les disciples ont vraiment cru qu'il était le Fils de Dieu, après avoir cru qu'il était un fantôme. Ouais. Il est passé de fantôme à Fils de Dieu.
Faut avoir c'est la conversion. C'est la conversion. Hein, parce qu'il y avait des vagues. Je veux dire,
c'est
l'eau
vrai.
N'était pas plate.
C'était comme un escalier.
C'est spécial.
On ne l'a jamais fait, je ne peux vous en parler. Ça n'a pas marché.
Non, mais c'est spécial quand tu marchais sur l'eau, comment que ses pieds bougeaient en même temps que les vagues.
Oui, mais en fait, Franck le fait souvent, mais en hiver au Québec, sur un lac gelé.
C'est facile. Bon, est-ce qu'on va se diriger vers une égalité? Peu, équipe rouge, c'est à vous. Après quel miracle de Jésus l'ingratitude de ceux qui avaient été guéris est-elle mise en évidence? Ben oui, c'est facile. Après quel miracle de Jésus, l'ingratitude de ceux qui avaient été guéris est-elle mise en évidence? L'équipe bleue semble avoir la réponse. L'équipe rouge aussi. Jonathan?
Nous allons avec les 9 lépreux.
Oui.
Enfin, les 10 qui ont été guéris, mais 9 ont été ingrats.
Les 9 ingrats lépreux. On va les rebaptiser comme ça. Bonne réponse. On trouve cette histoire dans Luc au chapitre 17 et nous avons une égalité que nous allons nous faire un plaisir de départager au buzzer. Wow, c'est trop rapide.
Il est déjà arrivé.
Trop rapide.
Ça va marcher.
Vas-y, Evelyne.
Est-ce que Nadine peut tester son buzzer, s'il vous plaît? Voilà. OK. Vous êtes prêts? Arrêtez de buzzer.
Vas-y, Evelyne.
Frank, je vais te le confisquer.
Vas-y, Evelyne.
Donne-moi ça.
Ça va ralentir son buzzer.
OK.
Citer
4 livres de la Bible écrits par Paul. Frank.
Oui. Galates, Éphésiens, Corinthiens, Romains.
Bonne réponse. Félicitations, Frank. L'équipe bleue va en finale.
Bravo.
Bravo. Bravo.
Allez,
bravo,
les bleus.
Bravo.
Allez, les bleus.
Encore les bleus. Équipe rouge,
le stress,
vous êtes très bien battus.
Merci, les spectateurs.
On ne se bat pas.
Vous nous battu, c'est une façon de parler, Jonathan.
Nadine, soudainement, la tête est un peu
basse. Ouais, c'est triste, là, les ronces.
Mais utilisez de tels ustensiles.
Les ustensiles.
Mais ils sont à gagner, non? Ils n'étaient pas à gagner leurs ustensiles.
Nous verrons. Nous allons peut-être vous faire gagner les ustensiles de l'équipe bleue un jour.
Moi, je propose là pour les téléspectateurs qui sont sur Internet et qui peuvent mettre des commentaires sous cette vidéo. Mettez des commentaires pour encourager Nadine. Nadine, les rouges ont quand même gagné dans notre cœur. Vous êtes l'équipe gagnante.
Hashtag Nadine.
Ouais, c'est clair. Hashtag les rouges.
Nous allons passer à la finale. Avant ça, nous allons regarder ce que Jenny a peut-être gagné.
Recevez une collection de 8 livres d'une valeur de 125 €, dont « Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair » de Ivan Castanou, « Le conflit est terminé » de Andrew Womack, « À l'écoute de Dieu » de David Terry et bien d'autres.
Donc, je le reprécise, ces livres sont tous les livres originaux qui ont été utilisés sur ce plateau et qui seront dédicacés par vos mains, chers candidats. Donc, ce sont des livres précieux, très, très précieux.
Ce sont des marques de Stabilo qu'on a dit une fois.
Je pense que Nadine et Annabelle, à l'époque, ont fait attention. Donc, équipe bleue, est-ce que vous êtes prêts?
Nous sommes prêts.
À cause de ça, tu risques de perdre, Frank.
Je suis tellement stressé, là, bien actuellement.
Détends-toi, okay, respire. Je vous le rappelle, le chronomètre va démarrer après la lecture de la première question. Il y a 10 questions. Vous pouvez passer et utiliser les jokers. Okay le oui. joker, pardon, oui. il n'y en a qu'un.
Un seul suffit.
OK. Question 1. Quel livre, Jérémie, hein, quel livre de la Bible se trouve après les juges?
Passe.
Aurélie, selon la Bible, qui fut vendu pour 20 pièces d'argent?
Joseph.
Bonne réponse. Frank, selon la Bible, qui a mangé le miel d'une carcasse de lion?
500.
Bonne réponse. Jérémy, à quel prix Ésaü a-t-il vendu son droit d'aînesse à Jacob?
Un plat de lentilles.
Bonne réponse. Aurélie, comment mourut Jean-Baptiste?
Décapité.
Bonne réponse. Frank, quel est le livre le plus court de l'Ancien Testament?
Passe.
Jérémy, qu'est-ce qu'Élisée a jeté dans la source des eaux à Jéricho pour l'assainir ou la rendre saine?
Du sel.
Bonne réponse. Aurélie, quel âge avait le roi David lorsqu'il mourut?
Passe.
Frank, qu'arriva-t-il à Jésus au 8e jour après sa naissance?
Ok.
Il fut circoncis.
Bonne réponse. Jérémy, que faisait Bathsheba quand David l'a vue pour la première fois?
Elle se baignait.
Bonne réponse. Aurélie, quel livre de la Bible se trouve après les juges?
Ruth.
Bonne réponse. Frank, quel est le livre le plus court dans l'Ancien Testament?
Amos.
Mauvaise réponse. Jérémy, quel âge avait le roi David lorsqu'il mourut?
80 ans.
Mauvaise réponse. Ah, dommage. Vous n'étiez pas loin du tout. Ouais,
difficile celle-ci.
Ouais, c'était dur.
C'était quoi le...
Là, alors, David est mort à environ 70 ans. Okay. Environ.
Ah,
hein.
Il est pas mort vieux, hein.
Et c'était Abdias, le livre le plus court de l'Ancien Testament. Personnellement, je ne le savais pas. Vous le saviez?
Il est tellement petit que je n'ai jamais lu. En fait.
Il est collé en 2 pages.
Il est dans les petits prophètes.
Dommage, le
on
gros cadeau.
Quand même.
Ce n'est pas grave. Jenny a quand même gagné un beau livre qui va lui permettre de devenir une merveilleuse épouse. Et...
Jenny, nous excusons. Ouais.
Jenny, c'était pas
nous. Nous sommes couverts de confusion. Nous avons eu tort.
La bonne nouvelle, c'est que le gros cadeau est reconduit au prochain quiz et une autre personne aura peut-être la chance de gagner ces fameux livres que nous avons présentés au fur et à mesure des émissions de Bonjour Chez Vous. Hein. Ce sont des livres, certains, on les a présentés au tout début de Bonjour Chez Vous.
Mais vu que j'ai dit Amos puis Abdias, ça commence par A.
Bah, t'as 0,5 points, mais ça ne suffisait pas. Il fallait 9 bonnes réponses. Pour
mais en Galade, Amos, ça se dit Abdias.
Ah, d'accord.
C'est comme Chiboulette.
Merci, Gwen, parce que le point était en haut.
Mais c'est ça, juste au-dessus, le point. On peut montrer le point, s'il vous plaît.
Jenny, désolé. Hein.
Allez, remettez-vous, équipe bleue, tout le monde vous aime, donc ça va, tout va bien.
Bravo, sincèrement, bravo.
Mais oui, ils se sont bien défendus quand même. Hein.
C'est bon.
Mais Evelyne, si je peux me permettre, c'est la première fois que je remarque le quiz, là,
oui.
qui est en violet.
Oui.
Et le violet, c'est la fusion des
mais
bleus
oui.
et des
oh,
rouges.
Il est vraiment
absolument.
Très poétique aujourd'hui, j'en
ai
oui. Merci,
très beau.
Vive l'unité.
C'est
très
beau. Oh, voilà, oh. c'est voilà. ça.
Vive l'unité ça. Sur tous les rouges.
Allez.
On va
se couper nos pompons. On est dans l'unité. Vous avez tous perdu. Félicitations. Nous allons nous retrouver demain, chers amis. Notre thème, enlève ça du milieu de mon écran.
On peut secouer pour Jenny une fois au moins. Nous sommes les bleus, les bleus, les belles US. J'ai fait attention ce coup-là.
Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Ton attitude dans l'épreuve fera toute la différence » et nous serons avec nos invités de la semaine, Pasteur Werner et Mado Lehmann. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.